Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Je suis heureux de recevoir à ce micro Lucien Belli. Lucien Belli, bonjour.
Bonjour.
C'est la deuxième fois que vous répondez à notre invitation, je vous en remercie. La première fois, nous avions consacré une émission à la naissance de la diplomatie moderne en Europe. Et pour cette deuxième émission, j'espère qu'il y en aura bien d'autres, pour cette deuxième émission donc, nous allons traiter de la France au XVIIe siècle. Vous venez d'y consacrer un livre publié par les PUF, les presses universitaires de France, et ce livre est intitulé « La France au XVIIe siècle, puissance de l'État, contrôle de la société ». Mais avant de s'engager dans la découverte de cet ouvrage, je souhaiterais, Lucien Belli, revenir à la fois sur votre carrière, votre œuvre et, disons-le, votre parcours intellectuel, votre parcours d'historien. Vous venez de recevoir le prix Madeleine Lorrain-Portemer de l'Académie des sciences morales et politiques, un prix qui salue précisément l'ensemble de votre œuvre. Je souhaiterais tout d'abord revenir à vos origines. Est-ce que vous vous souvenez, Lucien Belli, de ce jour où vous avez décidé de choisir l'histoire moderne comme matière dans vos recherches ?
Oui, je m'en souviens bien. D'abord, merci de votre invitation à retrouver un peu la suite des événements qui peuvent conduire à un choix d'historien. C'est toujours un peu délicat. J'étais moi-même plutôt un élève de filière scientifique et j'ai choisi de me pencher vers l'histoire, sans doute parce que je voulais décrypter les ressorts cachés des événements, parce que je pensais que l'histoire offrait des documents, des indications, des informations pour retrouver l'ordre des choses, retrouver une vision cohérente de la réalité humaine, des relations entre les personnes et entre les groupes, et ainsi d'élucider en quelque sorte le monde d'où nous venons, autant que le monde dans lequel nous vivons.
Au fond, l'histoire, pour vous, permet d'éclairer le présent ?
Je ne désire pas forcément éclairer le présent avec le passé. Je crois que ce serait un peu une illusion. Il s'agit peut-être d'avoir, dans la pratique historique et dans la vision de l'histoire, la vision du passé, un moyen de connaître plutôt des structures, des habitudes, des traditions que nous pouvons retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire un peu comprendre pourquoi tel événement aujourd'hui a lieu, tel réflexe peut apparaître, tel mouvement, telle évolution peuvent s'imposer, en s'éclairant d'une expérience issue du passé. Je ne crois pas que le présent soit écrit dans le passé. Ce serait une vision trop rationaliste. Mais je pense que le passé nous aide à donner de la profondeur au présent, à mieux situer les hommes d'aujourd'hui et les événements d'aujourd'hui. Donc je veux absolument, si vous voulez, séparer la pratique de l'histoire d'un commentaire de l'actualité. Je crois que ce serait là bien prétentieux de lier les deux. Mais je pense que la pratique de l'histoire me permet de donner plus de profondeur à ma propre vision de la réalité contemporaine.
Dans ce que vous dites, je retiens les mots à la fois de compréhension, comprendre les événements, c'est ce que vous nous avez dit, trouver une vision cohérente. Est-ce que vous pensez qu'il existe un fatalisme dans l'histoire ou au contraire que tout est possible ? D'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, ce sont les derniers mots de votre ouvrage. En 1700, tout peut encore arriver. Ce sont les derniers mots de votre ouvrage.
J'ai moi-même vécu dans un contexte historiographique où on insistait beaucoup sur les déterminations, c'est-à-dire que tout était un peu écrit par des rapports économiques en particulier, ou même quand on considère la vision de Fernand Braudel, à travers la géographie en quelque sorte. On commence par ce qui dure beaucoup, par les phénomènes sur le très longtemps, à l'échelle du monde, et finalement l'homme est une petite pauvre créature sur ce globe et il vient subir finalement ces déterminations. J'ai profondément voulu réinstaller, comme d'autres, la liberté dans la vision historique. C'est-à-dire penser que les individus sont bien sûr dans des groupes, dans des familles, dans des mouvements globaux, mais ils ont la possibilité de faire des choix, et des choix qu'ils font par hasard, parfois sur le champ, parfois des choix au contraire très médités, longuement préparés. Néanmoins, l'historien doit réintroduire cet élément de liberté. Je suis très sensible à cette notion de liberté dans toute démarche. Je trouve que nous autres Français sommes peu attachés à la liberté, nous sommes très attachés à l'égalité, moins à l'idée de liberté. Je crois que dans la vision historique, vraiment, j'ai été très sensible à la part, bien sûr, du hasard et de la nécessité, mais aussi à ce libre choix qui est laissé à l'homme de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser, de subir ou d'inventer son propre présent et de s'investir dans la réalité. Et ça, je crois que plus le temps avance, plus ça me force aussi, d'une certaine manière, à reprendre le fil du temps. J'ai commencé par un travail qui est thématique, finalement, où on bouleversait tout, en quelque sorte. On pensait un peu le monde comme Dieu, en le recomposant dans des cases. Je l'avais fait pour la paix d'Utrecht, donc, de recomposer une pâte historique, une pâte presque littéraire, en quelque sorte, à partir des éléments donnés par les documents du passé, pour présenter ce qu'était l'information, la négociation, l'action diplomatique, au début du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, je considère que l'on ne peut pas comprendre les choses sans recréer un fil chronologique, une compréhension chronologique, parce que c'est ça. Nous sommes en quelque sorte les maîtres du passé, et ce passé, c'est un temps qui passe. Donc il faut absolument retrouver l'enchaînement des faits, le jeu des causes, des réalités, de leurs conséquences. Et ça, c'est vraiment un travail un peu de dentelière qui me paraît nécessaire. Alors, je suis là un peu en porte-à-faux par rapport à toutes les écoles qui ont précédé, où au contraire, on considère que la chronologie n'a pas beaucoup d'importance. Mais je m'aperçois, et c'est aussi peut-être parce que je suis professeur, que les jeunes générations n'ont plus du tout la formation qui était une formation d'ailleurs à la fois élèves des lycées, mais aussi une éducation sociale où l'on apprenait beaucoup d'histoire. Finalement, tout est devenu un peu éclaté, les savoirs sont devenus éclatés, et c'est déjà tout un travail de recomposition, de retrouver, je prône la liberté, en même temps je m'impose une sorte de nécessité du temps. Mais peut-être parce que c'est aussi ça, la fierté, l'orgueil de l'historien, c'est que nous maîtrisons en quelque sorte la liberté des gens morts.
L'historiographie a tendance à se découper en quatre grandes périodes, l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Or, vous, vous avez choisi l'histoire moderne. Pourquoi ce choix ? Puisque finalement, les modèles de compréhension, la chronologie, bah, ma foi, elle court de l'histoire antique jusqu'à nos jours et elle couvre ces quatre périodes. Et les compréhensions humaines restent souvent les mêmes d'une génération à une autre.
Je crois qu'il y a deux aspects qui doivent correspondre d'ailleurs à l'expérience d'autres historiens de ma génération. D'une part, c'est la sensation que des éléments de ce monde ancien survivaient encore dans les années 60-70. Je dirais un monde agricole, une civilisation agraire, un monde rural, et que progressivement ce monde a beaucoup changé et qu'il allait disparaître ou qu'il allait se transformer profondément. Le monde agricole d'aujourd'hui est très différent de celui des années 60 où finalement on avait des petites entreprises de type familial où l'on subissait le temps qu'il fait, où l'on avait à gratter la terre pour finalement vivre d'année en année. C'était finalement un monde assez rigoureux, mais aussi où il y avait une sorte d'indépendance très forte. Mes grands-parents étaient eux-mêmes paysans, et donc j'ai senti ce monde qui était un monde d'autrefois, en quelque sorte, déjà. Et j'ai eu le souci aussi de connaître dans quel contexte il avait pu avoir sa cohérence. Et je crois vraiment que c'est aussi l'idée que, d'une part, il y avait ce lien, mais qu'aussi tout avait changé par rapport à ce qui existait avant la Révolution. C'est vraiment à partir à la recherche d'un monde perdu. C'est l'expression de Peter Laslett, ce monde que nous avons perdu. Je l'aborde sans nostalgie, que ce soit clair. Je ne désire en aucun cas restaurer et participer à une entreprise de restauration. Mais en revanche, je participe à une entreprise de reconstruction intellectuelle pour essayer de découvrir ce qu'étaient, je dirais, à la fois les grandeurs et les souffrances de ce temps-là. C'est-à-dire de ne pas privilégier une vision euphorique ou une vision pessimiste. Je ne suis, je dirais, ni le disciple de Pierre Goubert, qui peut-être verrait un monde à travers la souffrance des paysans, ni peut-être un élève de François Bluche, qui n'insisterait finalement que sur la prestance du roi Soleil. J'essaye, au contraire, de retrouver ce qu'est un temps, ce qui fait la cohérence de ce temps-là, les règles.
Ce que vous dites est très important, parce que finalement, vous présentez les choses sous un angle très économique, très social. Vous avez souhaité voir les gens et comprendre les gens de l'époque. Or, vous vous êtes dirigé vers une thèse de doctorat qui est loin de ces travaux dans la campagne, dans les fermes, dans l'artisanat, puisque vous avez travaillé dans le cadre de votre thèse sur les diplomates et la diplomatie autour de la paix d'Utrecht.
C'est un peu le paradoxe ou le choix que j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder ces événements, disons le traité d'Utrecht, je suis tombé sur deux formes d'écriture. D'un côté, une écriture qui agressive, qui nie le monde international, qui nie la diplomatie, qui nie ces négociations, qui considère que c'est un peu un jeu de riches, un peu un jeu de privilégiés, un jeu inutile, qui néglige en effet l'épaisseur des sociétés. Et d'autre côté, une histoire diplomatique qui était très ancienne et qui énumérait un peu au jour le jour des négociations et qui vraiment décrivait là, en effet, un monde fermé, un monde des cabinets qui avait sa logique, qui permettait de comprendre pourquoi telle province était agrandie ou avait changé de souveraineté. Mon idée était au contraire de montrer que le politique, et en particulier la politique internationale, que le travail diplomatique n'est rien sans les mondes qu'il est censé organiser. Que le diplomate, en effet, parle au nom de son maître, le roi de France, mais le roi de France, ce n'est pas uniquement le prince, c'est aussi déjà les Français. Et que, aussi bien le monarque que ses représentants ont ça à l'esprit. Et que quand on cède l'Acadie, ce n'est pas seulement une province lointaine dans un monde qu'on connaît mal. Bien sûr, c'est un monde qu'on connaît mal. Mais on devine bien qu'il y aura des implications, des conséquences, parfois dramatiques, parfois heureuses. Mais en tout cas, que l'on veille ou l'on travaille pour le sort de communautés humaines. Et qu'on en a en quelque sorte une forme de responsabilité. Et ça, si vous voulez, c'est sans doute aussi l'expérience des dépêches du Quai d'Orsay, de ces merveilleuses archives diplomatiques, où bien sûr, le diplomate écrit pour le prince. Mais quand il l'écrit pour le prince, parfois en faisant de l'esprit, ou en essayant d'attirer son attention, ou de susciter son attention, il a en permanence à l'esprit qu'il veille, je dirais, à un pays, à un royaume, à des provinces, et que c'est une matière extrêmement difficile, qu'il a des responsabilités, que toute parole engage. Et je crois que, peut-être aussi parce que j'ai suivi parfois des hommes politiques dans ma vie, j'ai été conscient à quel point le discours politique est un discours qui engage. Le moindre mot peut avoir des conséquences dramatiques ou heureuses. Il y a des vérités qui sauvent, il y a des mots qui sauvent, il y a des mots qui enthousiasment, il y a aussi des mots qui blessent, il y a des mots qui causent des dégâts épouvantables. Et je crois que le monde politique et le monde diplomatique, en particulier auquel j'ai consacré une grande partie de mes recherches, avait la sensation qu'il parlait justement pour des sociétés. Et c'est ce pari que j'ai voulu tenir. Et je crois que j'ai en quelque sorte désenclavé ce petit monde des diplomates. Ce n'est pas forcément des dentelles et des plumes d'oie, mais que c'est aussi des familles qui vont subir finalement les conséquences des décisions qui sont prises.
Le bonheur des peuples, nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a un point important dans ce que vous dites, c'est que vous avez souhaité désenclaver ce monde de dentelles. Il y a derrière cela l'idée de transmission. Vous possédez un savoir, vous le cultivez, vous l'entretenez. J'ai reçu au micro de Canal Academy un historien qui me disait avoir pris plus de plaisir à transmettre à un auditoire, à des étudiants, à travailler avec ses étudiants dans le cadre de thèse, qu'à écrire des livres. Quelle place donnez-vous, Lucien Belli, dans votre œuvre et votre carrière à cette idée de transmission ?
C'est très délicat. Ce que vous dites est une question majeure, d'autant plus qu'aujourd'hui, le livre connaît une évolution très nette. Moi, j'ai fait des très gros livres, très difficiles à lire, d'une certaine manière, un peu longs. J'ai fait aussi des livres plus courts, mais indéniablement, il faut se poser la question du public, du lectorat que nous connaissons mal d'une certaine manière. C'est le propre de tout homme qui écrit. On connaît un petit peu les gens qui vous lisent, mais c'est très, très fragmentaire. En revanche, en effet, les étudiants, les chercheurs, les collègues, nous les connaissons bien. Donc c'est un peu cette communauté que nous fréquentons. Et ça, c'est la vraie vie d'une certaine manière et c'est forcément très attirant. Je dirais que j'ai consacré à ces deux activités de toute ma vie et je crois qu'elles sont liées l'une à l'autre. J'ai beaucoup de plaisir à élaborer un livre, à le penser dans le temps, à le construire, à l'améliorer. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des fautes, il y a des longueurs, mais c'est un immense plaisir. C'est un peu de sa chair. Hein. Tout livre est une once de sa propre chair. Je dirais que c'est très lié à soi et à sa propre intelligence. Lors de l'enseignement ou de la recherche, indéniablement, c'est un des liens les plus forts qui puisse s'établir, puisque c'est un peu un lien d'amitié intellectuelle, d'affection parfois même, autour de questions liées à l'esprit. Et je m'aperçois, là encore, peut-être aussi avec l'âge, que lorsque l'on a un petit groupe autour de soi, on se sent joyeux, en quelque sorte. Alors, rien n'est plus agréable que de voir des étudiants rire ou s'amuser de ce que l'on raconte. Et je crois que ça, c'est très important, de pouvoir essayer de les passionner, de ne pas les ennuyer ou de ne pas les forcer, parce que l'enseignement est aussi, malheureusement, une façon aussi d'obliger les gens à travailler. Il faut bien qu'il y ait cette part-là, mais s'il peut y avoir de la passion et de l'intérêt, c'est très agréable et très gratifiant. Mais au-delà de cela, il y a également une communauté de recherche qui peut s'établir et je crois qu'indéniablement, il y a aussi, dans les choix que je viens d'exposer précédemment, un grand souci de réhabiliter ce que j'appellerais l'action politique. Tant insister sur le fait que même sous l'Ancien Régime, même dans un cadre de monarchie dite absolue, avec un monarque de droit divin, le roi vit en grande partie par ses peuples et pour ses peuples, eh bien j'en suis persuadé, je crois que beaucoup trop de nos contemporains, par négligence ou peut-être justement à cause de cette idéologie issue du déterminisme qui considérait que la politique ne pouvait pas grand-chose, c'était un peu un épiphénomène et que c'est l'économie qui domine, on est bien devant, là l'économie a un poids immense, mais le politique et la politique résument tout en définitive. La politique rassemble tout, synthétise tout et qu'on a bien tort de la négliger ou de la dédaigner, voire de la mépriser. Dans le monde peut-être aussi de l'enseignement, il y a un regard très pessimiste à l'égard de la politique, un peu tous pourris. Et ça, je crois que c'est le pire danger qui puisse nous arriver. Parce que nos contemporains, parfois, je parlais tout à l'heure de liberté, ils peuvent penser que la liberté, elle est acquise pour toujours. C'est pas vrai. Nous sommes en France, un pays où la liberté, grosso modo, existe. Elle n'est pas parfaite. Il faut la perfectionner. Donc, il faut également la défendre en permanence. Et je ne suis pas sûr que l'on ait, autant que dans d'autres pays, je pense en particulier aux pays comme l'Amérique ou que l'Angleterre, une telle religion de la liberté. Et je crois que c'est un domaine qu'il faut fortifier en France et ça ne peut se faire que par la politique. Et je crois qu'autour de moi, les chercheurs contribuent peut-être à donner de l'action politique, de la culture de paix par exemple, de l'organisation politique, une vision plus optimiste pour en quelque sorte lui donner une légitimité encore plus grande.
Lucien Belli, nous nous retrouvons dans un instant. Je reçois au micro de Canal Academy Lucien Belli qui vient de recevoir le prix Madeleine Lorrain-Portemère qui sanctionne en quelque sorte toute une œuvre, l'œuvre d'une vie. Et vous venez de publier Lucien Belli, La France au XVIIe siècle, puissance de l'État, contrôle de la société au PUF, les presses universitaires de France. Alors, nous avons fait, selon votre expression, une sorte d'égo-histoire et je souhaite me diriger donc vers cet ouvrage. Vous aviez laissé nos auditeurs sur l'idée de liberté avec un grand L et nous allons parler maintenant de cette époque où ne régnait pas la liberté mais les libertés. Alors, ma première question est la suivante. Dans votre ouvrage « La France au XVIIe siècle, puissance de l'État, contrôle de la société », vous abordez l'époque à la fois sous l'angle politique mais aussi à la fois sous l'angle économique et social. Et c'est vraiment une nouveauté pour vous, puisque comme nous le disions tout à l'heure, vous vous étiez habitué aux arcanes de la diplomatie et de la politique. Or, l'un ne va pas sans l'autre, le social ne va pas sans le politique.
En effet, c'était pour moi une expérience intéressante. Alors, j'ai commencé mes premières recherches d'ailleurs sur la société au XVIIIe siècle, sur l'éducation au XVIIIe siècle. Donc, les questions sociales m'intéressent, les rapports sociaux m'intéressent. Mais en effet, je ne suis pas un chercheur expérimenté. Donc là, j'ai travaillé un peu en m'appuyant sur l'immense production qui a pu s'élaborer au fil des décennies sur l'histoire sociale, un peu sur l'histoire économique, mais surtout sur l'histoire sociale, pour essayer de comprendre les phénomènes politiques. Et je dois dire que là, je suis tributaire d'une dette immense. Je parlais tout à l'heure de Pierre Goubert. Son Beauvais, Le Beauvaisis, est un ouvrage admirable, et justement, qui a permis de fonder une certaine vision de la société, de renouveler considérablement cette vision de la société. Mais là encore, j'ai voulu lier cette cohérence sociale de l'Ancien Régime, et qui, vous l'avez dit, était une hiérarchie, un monde hiérarchisé, un monde inégalitaire, un monde organisé, où s'exerçait une forme de négociation permanente entre les différentes strates de la société qui dépendaient les unes des autres. J'ai voulu lier cet ensemble à l'expression politique qui en pouvait découler, c'est-à-dire un peu l'action de l'État face au soutien ou aux résistances des groupes sociaux. C'est une vision qui n'est pas très originale, je pense que c'est au contraire la tradition en France. Mais peut-être ai-je voulu d'abord présenter la construction de l'État pour ensuite voir quels étaient les fondements de la société et comment cet État a pu s'appuyer sur cette organisation sociale.
Une idée à laquelle je m'attache particulièrement est celle de l'évolution de mouvements à travers les siècles. Est-ce que le XVIIe siècle est un monde figé ?
Je crois vraiment qu'il y a eu une mutation essentielle tout au long du XVIIe siècle qui a permis à l'État monarchique, à l'État royal, de s'étoffer, de se donner une administration relativement importante, surtout d'avoir des moyens considérables. Indéniablement, on a appris aux Français à payer l'impôt, hein, de gros impôts. Et je crois que c'est vraiment tout l'apport qu'ont pu faire nos collègues spécialistes des financiers, c'est de voir justement cette masse importante d'agents de l'État qui, disséminés dans le royaume, permettent au roi d'avoir des moyens considérables. Alors, ces moyens, on sait pourquoi ils étaient faits. C'est essentiellement faire la guerre. Et à partir des années 20, pratiquement, c'est une suite ininterrompue de guerres. Donc, c'est des moyens considérables pour mettre en place une armée, plus tard pour mettre en place une marine. Et on voit bien que c'est la France en général, c'est-à-dire le royaume de France, qui est en quelque sorte la personne servie dans l'occurrence, puisqu'il s'agit de permettre à la France de s'étendre, de se défendre mieux. Le rêve de ce XVIIe siècle, il est tout simple, hein, c'est d'éloigner la frontière du Nord de la capitale, hein, que Paris ne soit plus une ville menacée. La France est construite autour de Paris, autour du bassin parisien, un peu autour de la Normandie. C'est là que se trouve le grand nombre d'hommes et de femmes. Donc, c'est la région la plus peuplée, la plus riche aussi.
Vous dites à un moment, d'ailleurs, l'histoire de France, c'est l'histoire de l'île de France.
Oui, par bien des aspects. Donc, on peut dire que la sensation, c'est que ce n'est pas le centre du royaume géographique et qu'il faut essayer de repousser la frontière du Nord. Toutes les entreprises gigantesques contre l'Espagne, contre les Habsbourg, c'est finalement grappiller quelques villages, parfois, également de grandes villes, mais aussi quelques villages pour essayer de rendre cette capitale moins fragile. Je crois vraiment que finalement, c'est une entreprise assez simple. Les moyens pour la mettre en place ont été beaucoup plus complexes. Et c'est essentiellement la mise en place de cette grande armée, de cette armée qui est un peu la grande organisation du XVIIe siècle.
Mais alors là, vous parlez politique et j'aurais souhaité savoir quel est le rapport au temps qu'entretiennent les gens du XVIIe siècle. Vous écrivez qu'il y avait un respect du passé, de la tradition, de la coutume. L'histoire du monde, vous ajoutez, se vit comme une décadence après un âge d'or depuis longtemps révolu. Ce qui existait autrefois s'avère meilleur que les réalités d'aujourd'hui. Or, il y a un progrès, il y a un développement. Et est-ce que les gens ont conscience de ce développement ?
Là, vous touchez un point très complexe et qui est à la fois de l'histoire intellectuelle, de l'histoire de ce qu'on appelait autrefois les mentalités, d'une histoire psychologique finalement. C'est vrai que toute la formation intellectuelle et toute la construction intellectuelle du XVIIe siècle reste encore orientée vers le passé, vers un passé perdu, par exemple sur la paix romaine. Un temps qui est perpétuellement en guerre ne peut regarder qu'avec nostalgie le temps de Rome où la paix existait, dans pratiquement tout ce qui correspond aujourd'hui à l'Europe et au-delà. Donc il y a forcément l'idée que les hommes réussissent moins. Mais peut-être, avez-vous raison, c'est au XVIIe siècle que se fait la coupure. C'est-à-dire que, un peu, je dirais, c'est la pensée cartésienne hein, qui introduit cette idée que l'on, avec méthode, on peut construire des savoirs aussi intéressants que ceux des anciens, ceux de l'Antiquité. Et quand on voit finalement le temps de Louis XIV, la querelle des anciens et des modernes, c'est un peu ça. C'est-à-dire, bien sûr, c'est la poésie, il y a eu Virgile, mais maintenant il y a Racine. Et c'est un peu cette nouvelle orgueil, cette nouvelle fierté qui indique aussi que l'on peut aller de l'avant. Et je dirais par bien des aspects, certains chantiers du XVIIIe siècle apparaissent déjà au XVIIe siècle. L'idée même d'un développement volontaire de l'économie, cet état que j'ai décrit, quel nouveau moyen il va s'employer à essayer de favoriser l'économie, la culture, la création artistique, pas toujours avec bonheur pour l'économie, mais pour la création artistique, il réussira pas mal. Donc cette idée qu'on a des moyens nouveaux, vous voyez, nous sommes un peu dans des problématiques contemporaines. Indéniablement, l'État en France s'investit beaucoup. Pensez qu'il a, en effet, cette armée considérable qui est aussi une source d'activité. L'Angleterre, au même moment, s'interdit d'avoir une armée permanente. Et c'est un des principes, justement, de la liberté anglaise, de ne pas avoir d'armée permanente. Au contraire, en France, il y a cette armée immense, peut-être plusieurs centaines de milliers d'hommes, et qu'il faut nourrir, qui est employée presque tout le temps. C'est forcément un changement considérable. Donc, vous le voyez, il y a eu à la fois, en effet, un poids du passé, mais aussi une construction d'un avenir. Et je pense que c'est pour ça que j'ai parlé de puissance de l'État. Ce n'est pas seulement une puissance qui envahit des pays voisins, c'est aussi une puissance qui se construit elle-même autour d'un État monarchique qui prend des principes importants. Alors bien sûr, c'est encore un État un peu corrompu, mais il y a cette idée que les affaires de l'État doivent aussi enrichir les particuliers. Mais néanmoins, de plus en plus, il y a des contrôles, il y a des vérifications, il y a aussi une éthique de l'État qui est essentielle. Et on voit bien que la République a bien des aspects hérités de cette éthique de l'État qui est très forte en France, sur laquelle il faut veiller et qui fait partie d'une des traditions françaises. Bien sûr, un État un peu lourd, mais un État qui intervient bien au-delà du strict champ de la sécurité, de la police ou de l'ordre public.
Donc il y a bien de nouveautés au XVIIe siècle, et je vais oser une question, est-ce qu'on ne peut pas précisément mettre une coupure artificielle entre l'ancien et le nouveau régime à cette période Louis XIVienne ?
Je pense que ce serait trop fort, et je me souviens que lorsqu'il y a eu la célébration de la Révolution française, Madame Thatcher avait rappelé très fortement que la révolution politique avait été faite en Angleterre au XVIIe siècle. Donc je pense que la grande coupure est quand même le temps de la Révolution française où l'on fait une révolution sociale et en partie politique. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu, si vous voulez, cette coupure qui est par exemple la nuit du 4 août. Là, il y a vraiment un changement considérable et qui touche tout le monde, hein, qui touche la propriété, qui touche le paysan, qui est pleinement propriétaire de sa terre. Vous voyez, c'est un acquis considérable. Il n'y a plus de hiérarchie fondée sur le sang. Donc c'est forcément des coupures beaucoup plus nettes, voyez, des façons de trancher très fort. Mais vous avez raison, probablement que c'est un XVIIe siècle européen à ce moment-là, est certainement un temps qui a vu des mutations essentielles. Le temps de Louis XIV ne peut pas oublier qu'en effet, l'Angleterre aussi, elle, a changé à côté. C'est une interrogation, c'est un défi qui se fait. Que les Provinces-Unies sont nées et ont développé une civilisation, une culture très singulière. Donc indéniablement, il y a des mutations, il y a des moments charnières, vous avez raison, mais ce ne sont pas ces coupures si nettes qui marquent les révolutions, aussi bien la Révolution anglaise du XVIIe siècle ou la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle.
Alors, en parlant de la nuit du 4 août, vous me donnez une excellente transition, c'est celle de l'idée de liberté. Vous en parliez tout à l'heure, la liberté nous est chère, dites-vous, en France. Or, à cette époque, il n'y avait pas de liberté, mais il y avait les libertés. Donc, on parle bien du pluriel. L'Ancien Régime n'est pas un pays d'égalité, mais de liberté au pluriel.
En effet, une structure que nous avons du mal à imaginer, c'est-à-dire que, vous faisiez allusion tout à l'heure à ce poids du passé,
tout s'ajoute. C'est-à-dire que, un peu comme nous parlons de droit acquis, en quelque sorte. C'est-à-dire que depuis le Moyen-Âge, il y a une continuité. Il n'y a pas eu, justement, de coupure. Il n'y a pas eu de changement brutal. Donc, finalement, on conserve un peu tout. Et les privilèges des uns, les droits particuliers des autres, forment justement ces libertés. Liberté d'une ville, mais indéniablement aussi, le XVIIe siècle marque une nouvelle attitude vis-à-vis de ce particularisme, vis-à-vis de cette indépendance locale, provinciale, régionale. Indéniablement, il y a un travail de l'État pour forcer le pays à accepter la loi du roi, qui est la loi de l'État, qui est une loi valable pour tous. Finalement, le grand acquis du XVIIe siècle, c'est de la conviction que tous les Français sont d'abord des sujets du roi de France, qu'on soit duc et pair ou qu'on soit simple paysan. Et par là même, on est obligé d'accepter quelques règles communes qu'impose le roi de France, à la fois des règles d'uniformité, de service du roi, de service de l'État. Et indéniablement, ces libertés que vous décrivez ont tendance à se réduire. Mais je crois qu'il serait faux de penser qu'elles disparaissent.
Le roi les protège ?
Le roi les protège et le roi en tient compte, si bien que je crois que la vision que nous avons aujourd'hui du XVIIe siècle n'est pas du tout celle d'un État totalitaire qui imposerait une loi uniforme, une direction uniforme. Indéniablement, c'est un État qui intervient dans le détail. Les ministres peuvent s'intéresser à un escalier dans une citadelle au fin fond des Pyrénées. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il faut bien que ces décisions venues d'en haut soient acceptées tout au long de la pyramide sociale, qu'elles deviennent en quelque sorte la chose des individus. Donc, il y a, je dirais, et c'est un apport d'ailleurs plutôt des collègues américains, il y a une sorte de négociation permanente à tous les échelons. Indéniablement, il y a la mise en place à l'échelon de l'État de règles, la préparation de décisions, et d'ailleurs des décisions importantes. Mais ensuite, il y a tout au long de la pyramide sociale une négociation pour faire accepter ces décisions par la noblesse, par les autorités locales, puis de les faire appliquer localement par les soldats ou les paysans qui doivent obéir à ces... Et on a bien souligné depuis longtemps que beaucoup de décisions doivent être répétées. Alors elles sont en effet très catégoriques, mais elles doivent être répétées. Donc ça veut bien dire qu'il faut en quelque sorte convaincre la population. Alors je crois qu'à la différence de certains de mes prédécesseurs, je pense qu'à la fin elles sont appliquées. Il y a une certaine cohérence du pays. Il y a une puissance de l'État. Mais cela suppose toute une négociation qui commence très haut. Je pense que les études récentes montrent combien la cour est un lieu de négociation. Le roi négocie des nominations, négocie avec ses grands seigneurs qui eux-mêmes souvent se font les protecteurs d'une province ou de leurs paysans ou de leurs vassaux. Et par là même, il faut les convaincre. Donc si la cour est ainsi un système très étonnant qui se crée à Versailles, c'est qu'aussi on y établit une forme de dialogue et les courtisans font passer, comme on dirait aujourd'hui, des messages à l'État. Et je crois que ce dialogue peut être informel, parfois très, très organisé, comme dans le cas des États provinciaux, c'est ce dialogue que l'on a peut-être un peu négligé autrefois et qu'il faut maintenant retrouver et que des études récentes montrent sans doute beaucoup plus qu'on ne pensait autrefois.
Je reçois Lucien Belli, auteur de La France au XVIIe siècle, puissance de l'État, contrôle de la société, paru au PUF. Nous nous retrouvons après cette toute dernière pause.
Elle se cache place Fürstenberg à Paris. Elle est la demeure de l'un des plus grands artistes peintres de notre temps, l'artistique demeure du peintre Delacroix. Une émission en libre écoute sur Canal Académie. Retrouvez un atelier fabuleux au cœur de Paris et plongez dans l'univers de l'homme qui fut membre de l'Académie des Beaux-Arts dès 1857.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'œuvre de Lucien Belli. Lucien Belli, vous venez de publier « La France au XVIIe siècle, puissance de l'État, contrôle de la société » aux presses universitaires de France. Nous évoquons, Lucien Belli, ce pouvoir royal. Or, ce pouvoir est associé généralement, dans l'inconscient collectif, à l'idée d'absolutisme. Or, cet absolutisme est quasi absent de votre ouvrage. Vous préférez à un moment, vous utilisez le terme de pouvoir absolu, mais il ne s'agit en rien d'un pouvoir délié de tout devoir.
Oui, j'ai voulu éviter le terme absolutisme, ce qui est l'objet de beaucoup de réflexions, de livres, de méditations, parce que je pense qu'il trompe un peu, en particulier les étudiants ou les jeunes chercheurs qui commencent leur travail, en pensant qu'il y aurait eu une sorte de changement juridique dans la monarchie française au XVIIe siècle. Je ne le pense pas. Je pense que les mêmes règles, les mêmes lois fondamentales, en gros, peut-être depuis le XVIe siècle, la loi de catholicité, en plus, ces lois fondamentales sont établies depuis longtemps et justement sont respectées et conservées. En revanche, c'est la pratique politique qui a profondément évolué. C'est une façon d'aborder le pouvoir, de contrôler l'administration, de mettre en place des hommes de l'État ou des représentants de l'État qui a changé en quelque sorte la vie quotidienne des Français. Et c'est beaucoup plus cette évolution-là qui m'intéresse. Ce n'est pas un changement structurel, mais c'est un changement dans la pratique, et une pratique que je juge de plus en plus autoritaire, en quelque sorte. Et ça, c'est certainement la marque du temps de Louis XIV. C'est un État qui se fait obéir et qui veut être obéi, même si, comme je viens de le dire, il y a en permanence encore des négociations. Mais c'est l'idée que l'ensemble de la population doit travailler dans le même sens. Et ce sens, c'est en quelque sorte d'affirmer la présence française en Europe, de mener une politique internationale qui va se révéler une politique très coûteuse et, d'une certaine manière, une politique dangereuse. À la fin du XVIIe siècle, qu'est-ce que l'on peut dire ? Le résultat, c'est que le territoire s'est étendu. Donc, on voit bien que le résultat de tout cet effort collectif, c'est d'avoir englobé dans la communauté nationale une ville comme Lille, une ville comme Strasbourg et une ville comme Besançon. C'est pas rien. On voit bien l'action collective, l'effort de l'État, c'est d'abord un effort géostratégique pour agrandir le territoire français, jugé trop faible. Je ne pense pas qu'on puisse parler de frontières naturelles. Au fur et à mesure que les stratèges ont essayé de comprendre un peu ce qu'il fallait garder, par exemple Luxembourg, Luxembourg n'a pas été englobé dans le territoire alors qu'à un moment elle était devenue française. Probablement parce qu'on pensait que c'était trop difficile de l'acquérir. Donc, indéniablement, il y a eu une grande vision collective qui est celle de Mazarin, qui est celle de Richelieu, qui est celle de Mazarin, qui est celle de Louis XIV. Une sorte de but à atteindre et qui finalement est atteint avec, à la fin du XVIIe siècle, non sans avoir provoqué, je dirais, une sorte de réflexe défensif de l'ensemble de l'Europe. Ça a signifié une politique très agressive. Et je crois que les Français s'imaginent qu'ils sont aimés par tous leurs voisins, aujourd'hui sans doute. Mais quand on va à Bruxelles, quand on va à Heidelberg, quand on va à Gênes, on voit ce que ça signifie. C'est la France, ce sont des bombardements qui ont détruit une grande partie de ces villes-là. Et on vous le dit, on vous le montre. Hein. Et donc, ça reste une sorte de blessure. Vous voyez, cette expansion de la France, ce dessein collectif, a été une blessure dans la plupart des pays voisins. Et on n'oublie pas de vous le rappeler chaque fois qu'on vous mène très amicalement voir la Grand Place de Bruxelles ou le centre de Liège.
Mais alors, je reviens tout de même sur cette idée de pouvoir absolu, de pouvoir autoritaire, parce que le mot est fort, le dialogue existe, on l'a dit, l'État demande à la société des moyens, la société, de son côté, elle demande à l'État une protection.
Oui, je crois que fondamentalement, ce que les Français ont retenu de leur histoire, c'est ne plus connaître la guerre civile. Malheureusement, ils la connaîtront de nouveau au moment de la Fronde, mais en particulier les guerres de religion, je crois, ont profondément marqué l'imaginaire collectif. L'idée qu'il puisse y avoir une fracture dans la conscience nationale. C'est très fort, vous voyez, l'idée de parti, par exemple. L'idée qu'il puisse y avoir des partis, alors que les partis se créent au même moment en Angleterre, comme une sorte de forme de dialogue naturel en matière politique. Cette idée qu'il puisse y avoir des partis, c'est une idée qui n'est pas admissible. La conscience nationale doit être unie autour de son roi. Et c'est un peu, je dirais, le contrat d'Henri IV, le contrat des Bourbons, Henri IV, avec sa bonhomie, était aussi un roi très autoritaire, très sévère, hein, qui a fait tomber des têtes. Et en même temps, il a rétabli la paix, il a permis un dialogue entre deux confessions, néanmoins, il a permis à deux communautés de vivre ensemble, de coexister. Hein. Vous voyez, c'est un peu cette pratique-là qui va s'imposer. Et après lui, c'est la pratique de Louis XIII et surtout d'Henri Richelieu, c'est la pratique de Louis XIV. Alors, bien sûr, Louis XIV nous apparaît comme sans doute le plus autoritaire, mais ce n'est pas forcément le cas. Moi, je suis frappé de voir que, par exemple, Fouquet, on l'a mis en prison. Concini, au temps de Louis XIII, il a été exécuté, hein, comme ça, comme un vaurien, alors que ce n'était pas le cas. Les Français acceptent d'obéir, cette idée d'obéissance, qui est terrible, hein, d'être les sujets, d'être tous les sujets du roi. Sujet, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On est assujetti, en quelque sorte. Et c'est vrai aussi bien d'un duc qu'un simple habitant des campagnes. Il faut subir la loi. Et s'appeler le duc de Saint-Simon se fait rappeler à l'ordre parce qu'il parle trop. Hein, vous voyez, on ne doit pas parler à tort et à travers. Donc, il y a cette sorte d'obéissance qui est quand même, vous voyez, pour nous qui avons l'habitude de dire un peu tout sentiment, c'est quand même très dur. Hein, ouais. C'est une contrainte considérable. Ce qui veut dire, vous voyez, que la France n'a pas connu, justement, la liberté au moment où apparaissent les journaux. Finalement, la Gazette, qui était relativement libre, qui était un outil de parole relativement élaboré, assez ouvert, va plutôt se figer dans pour être la voix de la France. Et bon, c'était la voix du gouvernement. Alors qu'au même moment, les Anglais inventent, par nécessité, parce qu'ils considèrent qu'il faut absolument avoir des journaux, ils inventent la liberté de la presse. Alors, tout à la fin du XVIIe siècle, il y a certainement cette idée d'acceptation de l'obéissance pour avoir justement la paix civile, pour pouvoir justement vaquer à ses affaires, circuler sans trop de danger, vivre dans la ville. Je crois que l'idée de sécurité est essentielle, hein, et elle est valable pour l'intérieur, elle est aussi valable pour l'extérieur. Là, cette politique que j'ai décrite tout à l'heure, qui est une politique agressive et d'expansion, c'est aussi l'idée qu'il faut ne plus être envahi par des troupes étrangères. Il ne faut plus que les Espagnols puissent pénétrer en France. Je crois que c'est vraiment des traumatismes qui sont vivaces. Et indéniablement, s'il y a eu cette politique coûteuse, parfois dangereuse, eh bien c'est aussi pour que le pays soit protégé, que l'on puisse justement construire tout autour une ceinture de fer, éviter l'invasion. On voit les réalisations de Vauban, on voit bien que c'est aussi une entreprise considérable, hein, de construction qui a été faite, tout en cassant les citadelles de l'intérieur. Hein, il ne faut plus qu'un comte puisse tenir son pays pendant des années en menant une forme de tyrannie locale, ça c'est plus possible. Il n'y aura plus de ces repères de princes locaux en quelque sorte, mais en même temps il faudra construire tout autour un ensemble défensif impressionnant pour justement écarter tout regard, tout contrôle de l'extérieur, de l'étranger et des princes étrangers. C'est un peu le pari d'Henri IV qui se perpétue tout au long du XVIIe siècle et c'est aussi la pratique d'Henri IV que l'on retrouve finalement chez ses successeurs.
Alors, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission, Lucien Belli, mais je souhaiterais vous poser une dernière question sur toujours ce pouvoir qui est lié, vous le dites, à la raison d'État. Or, nous avons une vision très négative de cette vision d'État, mais quelques pages plus loin, ou peut-être avant, vous présentez le machiavélisme comme une peur. La raison d'État n'est pas un machiavélisme.
Le machiavélisme, dans notre langage courant, c'est un peu une sorte de perversion de la raison, puisque c'est ajouté en quelque sorte, pour arriver à ses fins, des méthodes un peu tortueuses. La raison d'État, c'est un peu différent. C'est l'affirmation d'un ordre de pensée, d'une rationalité qui n'appartient pas à tout le monde. Alors vous voyez, c'est une vision un peu aristocratique de la politique, et ça, c'est certainement le cas. C'est que finalement, le gouvernement des hommes appartient à un groupe, pas forcément bien né, comme on disait alors, c'est pas forcément un groupe de la naissance, mais ça appartient, je dirais, au gouvernement de l'État, au prince et à ses conseillers. Ce qui veut dire aussi, derrière la raison d'État, c'était pour justifier aussi une politique qui paraissait absurde aux contemporains. C'est-à-dire que pour pouvoir mener cette grande politique internationale, la France a volontiers noué des alliances avec des princes protestants. Au moment où les Français connaissent la réforme tridentine, la réforme catholique, où on leur dit qu'il faut être de plus en plus catholique, il faut respecter le pape, il faut également accepter un catholicisme régénéré. Donc pour eux, ça veut dire que l'ennemi, c'est le protestant. Donc ils ne comprennent pas bien pourquoi le roi, les autorités leur disent qu'il faut être bon catholique à l'intérieur, et en même temps, on noue des relations avec le roi de Suède ou avec les princes d'Allemagne, protestants. Donc ce paradoxe que l'on a voulu en quelque sorte gommer sous le nom de raison d'État. Ce sont des raisons que le simple peuple ne peut pas comprendre. Il y a d'un côté les mystères de la foi que les prêtres possèdent et que les théologiens gardent. Le simple fidèle n'a pas à demander pourquoi il doit croire ceci ou cela, c'est écrit. Et il y a de même une raison d'État qui fait que l'on conduit une politique selon des principes sur lesquels on n'a pas à donner des explications. Ceux qui demandent des explications sont forcément des curieux. Vous voyez comment la raison d'État, c'est un peu l'idée de secret d'État, de mystère de l'État. C'est trop compliqué. Et c'est finalement une ligne directrice de la politique française, parce qu'on avait dû, de même, depuis le XVIe siècle, justifier l'alliance avec le grand seigneur. Et c'était difficile à justifier quand on parle en permanence de sauver la chrétienté du péril turc. La France est un pays qui noue naturellement des liens politiques et militaires même avec l'Empire ottoman, avec la Turquie actuelle. Donc ça pouvait aussi paraître encore plus scandaleux à des contemporains de François Ier et au-delà. Donc on voit bien que cette politique, cette définition de la politique est présentée comme un domaine si difficile, si complexe, que la rationalité n'est pas celle du commun des mortels. Et par là même, vous le voyez, la monarchie s'enferme en quelque sorte dans un monde particulier qui est celle d'une rationalité propre et qui a pu justement, avec le temps, nuire à l'évolution. Justement.
Est-ce qu'elle se désacralise en conséquence ?
Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'au XVIIe siècle...
Religieusement, je parle.
Alors, le lien est peut-être moins fort, mais d'une certaine manière, vous voyez, Henri IV a été un roi qui n'a pas mal réussi, or il a été protestant. C'est plus difficile encore à accepter par ses contemporains. Et d'ailleurs, le malheureux, il a fini par en mourir. Les gens pensaient bien qu'il avait dû garder un peu d'affection pour sa première religion. Il a changé plusieurs fois de religion. Donc c'était quand même un saut périlleux, comme on l'a dit, beaucoup plus grand. Donc Louis XIV, qui lui-même était un pieux chrétien, très fidèle, qui communiait quand il fallait, qui allait à la messe tous les jours, je pense que au contraire, il avait l'image d'un roi pieux. Louis XIII était très pieux. Ils ont construit beaucoup d'établissements religieux. Donc je pense qu'ils faisaient leur devoir. Et du côté de l'Église, ils étaient quittes. Mais ils étaient bien obligés d'affirmer la spécificité de l'État, la spécificité de la sphère politique. Alors vous voyez, d'une certaine manière, vous pourriez me dire que je me contredis. D'un côté, je dis que j'essaye de lier le domaine politique à l'ensemble de la société. Mais en même temps, il faut bien voir aussi que ce monde de l'État, ce monde de la monarchie, s'est protégé aussi de toute discussion quant à ses choix fondamentaux, tout en entretenant au quotidien une négociation avec les groupes sociaux et les sujets du roi.
Eh bien, Lucien Bély, c'est sur ces mots, sur cette complexité que vous décrivez dans votre ouvrage que nous allons nous quitter. J'en rappelle les références. La France au XVIIe siècle, puissance de l'État, contrôle de la société, paru aux presses universitaires de France. Et je renvoie également nos auditeurs à l'autre émission que nous avons enregistrée ensemble sur la naissance de la diplomatie.
Je vous remercie infiniment.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Bély. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire.